Bienvenue sur LFM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission Championne qui parle du sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence ce soir on va parler baseball ou en français de balle à base. Qui paraît que ça se passe comme ça, éthique en plus. Alors on parle ce soir de strike, de batte, de lancer, de home run. Et bien sûr, konnichiwa à tout le monde, bonjour à tous. Parce qu'en seconde partie on va parler de la légende japonaise du baseball, Ayami Sato, première femme de l'histoire de ce sport à jouer dans un club masculin en tant que lanceuse au Canada. Pour cet épisode, je serai accompagnée de Sandrine. Ça va Sandrine ?
Impec, et toi ?
Alors Sandrine dit la lanceuse d'ananas de la Picardie. Contente d'être là ? Je pense que oui.
Et pourquoi des ananas ?
Comme ça, j'ai envie. Où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention. C'est épisode 6 de la saison 2. Chers auditeurs, auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien, nous allons donc parler de baseball. Alors oui, perso, moi-même, j'ai pratiqué le baseball de rue, le baseball simplifié appelé la tech. Et seuls les gens de l'Île-de-France comprennent de quoi je parle.
Est-ce que je connais pas du tout.
T'as jamais entendu ?
Non.
Mais c'est un truc de ouf ça que t'as jamais entendu parler de tech.
Enfin, tu l'as dit dans ton annonce, en fait, je suis pas de la région parisienne.
Ah oui, c'est vrai. Vous êtes d'où ?
De Picardie.
Ah oui, la lanceuse d'ananas. Tout à fait. Alors, évidemment, la tech, et non pas la tectonique, hein, je vous rassure, rien à voir. Je parle bien de batte et de balle de tennis, de base improvisée avec des amis un peu fous. Et il est vrai que j'arrivais à lancer la balle jusqu'au second étage de l'immeuble en face. Alors que mon voisin, Grégoire, qui avait 3 ans de plus que nous, arrivait à mettre la balle sur le toit du 4e étage. Bravo à lui, je l'embrasse.
Les pauvres voisins.
Évidemment. On va donc parler baseball, mais pas que. Et bien entendu, avant, autopromo. Alors, vous connaissiez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi du 19h à 20h. C'est maintenant, c'est tout de suite, vous êtes là. Mais aussi le mardi matin, en rediff de 10h à 11h. Nous sommes bien en direct, comme d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver toutes les émissions en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de faire des courses, ou en manif, ou peut-être en ce moment en train de faire de la musculation. Eh bien, ce n'est pas grave, vous pouvez tout trouver en replay sur la page de la radio, tapez sur Google LFM Podcast, cherchez Championne. D'ailleurs, vous aurez plein d'autres émissions sympas, L'huile sur le jeu, Cappuccino, Les arènes de l'écologie, Radio Scénique, Au fil des pages, et même le petit nouveau Horizon Partagé. D'ailleurs, on m'informe de l'oreillette que tous les épisodes de toutes les saisons sont en ligne.
Bravo.
Merci, ça s'applaudit un peu.
Oui.
Un applaudissement. Merci, merci, merci. Alors pour nous suivre sur Instagram c'est @championne_l'émission. On va prendre un petit instant déjà, comment ça va cette semaine Sandrine? Des ambitions pour la mairie de Paris? Comment ça va la préparation du Beaujolais nouveau en novembre?
Il y a des sujets sur lesquels je peux parler mais ceux-là je les maîtrise pas du tout donc pour
ça
le coup,
t'intéresse pas la mairie de Paris?
Non.
Tu veux pas être candidate?
Non pas du tout non.
C'est dommage, j'ai tellement de choses à faire à Paris.
Ah ouais, mais j'apporterai tellement de changements que les gens ils vont pas s'en remettre. Tu sais, les petits bobos là qui sont dans leur. Non, c'est.
Ah, déjà.
Et puis le Beaujolais, je bois pas de vin rouge. Donc.
Plutôt blanc ?
Plutôt blanc.
Ah, d'accord. Ok. Bah, moi, ça me fait plaisir de t'avoir. D'ailleurs, de temps en temps, on aura d'autres intervenants parce que vous êtes coincés ici avec moi, mais pas que. Alors, un coucou à Camélia, Chai, Elodie, bien d'autres qui passeront pendant cette saison. Et bien sûr, les questions de la semaine. Merci à Sandrine, évidemment, d'avoir trié ces 9999 mails, dont 9999 spam. Et là, ouais. Tu me dis, il n'y a plus de messages. Eh ben non, on vient de recevoir un. Merci de l'avoir fait.
T'en prie.
Mais je t'en prie. Alors, message de Michel Jackson, 75. J'ai bien aimé votre duo avec la musique de fond. Vous savez, votre truc que vous avez fait la semaine dernière, est-ce que vous pourriez le refaire ? Alors, merci Michel Jackson du 75. Effectivement, on peut le faire, on va tenter de le faire dans quelques instants. Diego Armando Maradona est à la régie, des bisous à lui. Musique, s'il vous plaît. Samedi après-midi, j'étais avec Patrick. Pas Balkany ni au balcon, juste le café d'en bas pendant un bal masqué. Ohé ohé. Surpris, je le regarde et il me dit « On m'avait dit surtout, te pose pas trop de questions. Tu sais petit, c'est la vie qui te répond. » Pourtant, j'avais le sentiment, insistant, comme la drague de rue, que ce serait bruyant, comme les yang-yang pour de la drogue de rue. C'est hip-hop de rue contre R&B, tout le monde dit que le R&B n'est pas du hip-hop-popo. Le DJ semblait connaître son affaire. Faire pire, ce serait lire un banquier d'affaires. Bon, le café était délicieux après tout, et je saurais tout sur le houmou, la muscu et les mascus. En chaîne cool chaîne, après tout, je suis en double fil sur le fil de ses pensées. Barracuda, s'esclave l'assemblée, sur un air national de Claude François. Pas alarmé mais larme à l'œil, concentré bon pied bon œil, il déclare. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. surpris pendant le lancement d'une hola avec un groupe déguisé en Diego Maradona, je répondis « Hola, je suis pas venu pour ça, c'est à ton ex que t'as dit ça la dernière fois ». Il se reprend alors, tel Rachida Dati dans une bijouterie, riant et lançant des confettis, tire-lipin-pon sur le chihuahua. Ça m'énerve toutes celles qui portent la frange et la quête mosse, mais qui suis-je pour dire que c'est moche ? Il m'explique enfin les subtilités de la musculation, les actions des accros à la perfection, la vanité des réseaux sociaux et la mise en scène sociale des abdos. Fasciné tel un ado laissant ses jouets pour le jeu vidéo, Iseo Santillano, quelle idée de choisir un café aussi délicieux pendant une fête au village, les parents et les enfants ont avalé leur potage. Craquant comme une cracotte, je sais, je suis mignon, l'ambiance sonore semblait ingérable, comme un sirop d'érable avarié, pouvant donner la plus fulgurante des diarrhées. Vite un spectacle, je ne voulais pas finir comme Jordan Bardella. Je me barrais donc de là, laissant Patrick sur un « Alors regarde, regarde un peu, tout ce qu'on peut faire si on est deux. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Laura Smet, vous ici ? Mais ici c'est Paris. Partons mettre le feu comme votre père au Parc des Princes en 93, pas en 113, mais il était bien le prince de la ville. Sacré Johnny, comme le sacre du PSG. Perdre sans gagner, à vaincre sans péril, laisser l'IVG tranquille. J'embrasse Laura et me reconcentre sur les inégalités. Pas de retraité sur une planète brûlée. Climat à retraite, même combat. Je tombais sur une manif de DJ Climat. Manifestement, même président, même gouvernement, aucun changement. Mentir aux gens n'arrête pas le mouvement. La jeunesse emmerde toujours le Front National et encaisse toujours l'Affront National. Des bisous. Alors seulement vous faites semblant de dire merci de m'avoir écouté, bien sûr. Voilà. Alors, c'était soft, hein. J'ai écrit mon texte il y a 30 minutes, comme d'habitude. Alors, on repart sur le sport. Asobu Bacho, qui veut dire ?
Je sais pas.
Très bien, ça veut dire place au jeu. Alors le baseball, c'est quoi ? D'où ça vient ? Comment ça va les cheveux, Sandrine ?
Les cheveux.
Les cheveux, oui, les cheveux.
Ça va ?
Ça va bien ?
Ouais.
Après shampoing ?
Non.
Non ?
Non.
Tu mets quoi au bras sur les racines ?
Je mets rien.
Rien ?
Non, mais j'ai les cheveux extrêmement fins, donc j'ai besoin de pas grand-chose, en fait.
Un shampoing peut-être.
Oui, un shampoing évidemment, mais tu m'as dit après shampoing.
Parce que là, ça y est, je te voyais mettre de la terre dans les cheveux, aux quatre vents, de la lavande.
Tellement ils sont fins.
Voilà. Alors, le baseball est un sport d'équipe complet, stratégique et cocorico. Il faut savoir frapper, courir, lancer, mais surtout, c'est mixte. Est-ce que tu le savais ?
Non, je savais pas.
Eh ben moi non plus.
Et je trouvais ça dingue, mais non, je savais pas. Mais en même temps, ça m'étonne pas.
Bah oui, la F1, la moto, c'est mixte et en fait, on le savait pas.
Et finalement, en fait, les qualités sportives qu'il faut pour faire ce sport sont aussi bien pour le genre masculin que féminin. Donc en soi, oui, c'est pas étonnant, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'info.
Exactement. Et effectivement, comme tu as dit, on en a parlé dans une émission, au niveau du physique des sportifs, il n'y a pas besoin d'avoir un physique très particulier, très spécifique pour pouvoir faire ce sport. Il suffit de bien taper, avoir des bons réflexes, courir, suffisant. Et après, bien sûr, quand on a un niveau, ces qualités sont décuplées. Mais effectivement, c'est mixte, je ne le savais pas. Donc le baseball, de l'anglais « baseball », très important, est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le cricket, qui se pratique sur un terrain de gazon et de sable. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des gants pour rattraper la dite balle. Les origines du baseball prêtent à controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont été codifiées aux États-Unis en 1845, mesdames et messieurs. Et ça, c'est pareil.
Sport.
C'est un très vieux sport. Je ne pensais pas que c'était aussi vieux, tu vois, pour le coup. C'est bien aux États-Unis que ce sport s'organise et se structure. Les premiers championnats y voient le jour dès 1857-58. Donc on est vraiment sur un sport très très vieux. Comme tu l'as dit, je pense que c'est le sport professionnel le plus vieux parce qu'ils ont le foot américain, le basket en général et le baseball. Le professionnalisme est autorisé à partir de 1869 et la Ligue nationale est créée en 1876. 30 franchises, l'une d'elles basée au Canada, à Toronto. Bisous à nos cousins nord-américains, rentre dans la MLB, la fameuse Major League Baseball. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est le fameux jeu qui sort chaque année, comme il y a un FIFA pour le foot, il y a un 2K pour le basket. Une rencontre de baseball se joue avec deux équipes, vaut mieux, c'est important.
Oui, c'est plus simple.
C'est plus simple, d'accord.
Ouais.
Qui alternent en défense et en attaque. 9 joueurs d'une équipe passent successivement à la batte, donc ils doivent renvoyer la balle que le lanceur adverse lance, dans un ordre précis. Et les 9 joueurs de l'autre équipe se trouvent sur le terrain. Vous avez donc le lanceur, le receveur qui est derrière le batteur appartient à l'équipe qui sert, entre guillemets, et les 7 autres sont 4 dans le champ intérieur et 3 dans le champ extérieur. Les 3 dans le champ extérieur, c'est ceux quand il y a ces fameux gros coups, ils doivent courir comme ça. et rattraper la balle. Là, évidemment, une fois qu'ils ont la balle, qu'est-ce qui se passe ? Ben, si vous avez la batte, vous avez envoyé, il faut que vous alliez sur une des trois bases le plus vite possible. Et eux doivent récupérer la balle et vous toucher avec la balle avant que vous soyez sur une base pour vous éliminer. Voilà. C'est assez simple. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu as déjà pratiqué le baseball ?
Ouais, j'en ai fait.
Mais du vrai, pas de la tech.
Non, bah non, je connais pas la tech. Ah, voilà.
Tectonique.
Oui, ça je connais, mais ouais, alors, okay. la tech, non, je connaissais pas, je savais pas du tout. Oui, j'en ai fait parce que en Picardie, le baseball faisait partie des sports qu'on faisait au collège.
Mais non.
Donc j'ai fait du baseball au collège.
C'est-à-dire que pendant que nous on faisait du volley et du ping-pong.
Ah ouais, non, j'avais pas de volley, j'avais pas de ping-pong, non.
Cheval.
Ça pouvait dépendre, mais moi je sais que perso j'en ai pas fait parce que j'aime pas trop les chevaux et ça m'arrangeait. mais je pense que oui, ça faisait partie. Enfin, on avait vraiment des activités qui étaient différentes pour le coup, je pense, des vôtres.
Oui, bah, clairement.
En termes de place, on avait déjà beaucoup de place. Alors, moi j'ai fait du. Enfin, je faisais du baseball dans un champ.
Oui.
Que l'agriculteur laissait à disposition et que donc en fait on faisait un terrain. Et les terrains étaient, bah, je pense que pour le coup, il était vraiment sur les vraies dimensions.
Ouais, les bonnes dimensions.
Parce qu'il était juste immense. Et du coup, moi, j'ai adoré parce que je trouvais que c'était une façon de bien me défouler.
Oui, okay. Oui, parce que tu frappes, tu cours. Et même quand tu reçois, en fait, tu dois aller vite, tu dois courir après la balle quand elle tombe. Donc, de toute façon, ça reste un sport où tu te dépenses, quoi.
Ouais, après, j'en ai pas fait loin de là, en haut niveau. Mais ouais, pendant mes années de collège, ouais, c'est ce qu'on a fait.
Ça, c'est fou, ça.
Ouais.
Et évidemment, c'était mixte.
Oui, mais maintenant que tu m'en l'as dit, oui, effectivement, on avait toute la classe et on faisait deux équipes. Et oui, effectivement, il y avait à la fois des garçons et des filles dans l'équipe. Et ça posait aucun problème.
Ouais, parce que personne ne se posait la question, en fait.
Non. Non, mais si tu veux, je me suis pas posé la question à savoir si jamais après derrière si c'était en professionnel, pourquoi c'était partagé en fait tout simplement.
Mmh. Oui, j'avoue. Bah après, c'est vrai qu'on se pose rarement la question parce qu'on se dit qu'il doit y avoir une raison, mais en fait quand tu creuses, bon, pas tellement en fait. Et effectivement, il doit y avoir une au Canada. Bientôt, il y aura une ligue féminine au Canada. On a bien une ligue féminine, une fédération de baseball en France. On va juste en parler. Donc les femmes et le baseball. Les femmes jouent au baseball depuis. Un match universitaire d'une équipe féminine de 1866. Donc ça date aussi, hein, c'est un des plus vieux jeux et on était déjà là dans le début. Donc des équipes de baseball féminines se forment dès les années 1860 dans le milieu scolaire universitaire. Un club féminin non scolaire opéré à New York en 1869 fait en sorte qu'on donne l'idée à Harry S. Freeman d'organiser un championnat féminin. Alors, spoiler, il n'y arrive pas. On se demande pourquoi, classique. Et après, quand on arrive dans les années 1890 à 1942, là par contre, on va un peu plus rentrer dans le détail et on va plus créer des choses. D'ailleurs, la première ligue professionnelle féminine s'appelle la All American Girls Professional Baseball League, a été créée en 1943. Elle est créée par Philip K. Wigley, propriétaire des Chicago Cubs, qui existe toujours, qui est une grande franchise de baseball aux États-Unis, qui charge Ken Snell, assistant du manager général des clubs, de mettre sur pied une ligue féminine pour aider à soutenir le moral des troupes et des ouvriers.
C'est moi qui t'ai parlé de ça.
Je sais.
Je trouvais ça ouf.
Et justement, tu vas raconter ça. Vas-y, enchaîne. Allez, en 1942, qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est juste que j'avais vu une série sur une des plateformes et du coup, ça partait du principe, alors j'avais pas trop le speech au début, mais concrètement, ça parlait de l'équipe féminine de baseball.
Ouais.
Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et au fur et à mesure, donc, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a deux saisons.
Ouais.
Et en fait, ça montre tout le parcours. Après, bien évidemment, c'est romancé, mais ça, c'est parti d'un fait réel.
On peut trouver cette série sur quel
Ah, franchement, je me souviens plus. Je crois que c'était sur Prime que j'ai regardé.
Okay.
Ouais. Et je te dis ça, il y a quelques temps. Hein. C'est pas récent. Mais quand on a parlé de baseball, ça m'a fait penser à ça. Mmh. Et du coup, on voit tout le parcours, que ce soit l'idée de le faire jusqu'à la concrétisation et jusqu'au titre qu'ils vont gagner avec l'équipe. Ouais. Mais du coup, comme les hommes qui jouent au baseball sont partis faire la guerre.
Exactement.
Il n'y a plus d'hommes pour pouvoir jouer au baseball. Mmh. Et donc, le baseball, il faut qu'il perdure, il faut qu'il continue. Et entre autres, on va te le vendre, bon, c'est pas que pour ça, mais on va te le vendre comme un sport qui doit perdurer pour faire en sorte que le peuple garde le moral. Parce que c'est un sport national. Et donc, on le voit même encore maintenant, il y a quand même une grosse différence entre ceux qui vont regarder le football américain, je parle dans les gradins, et ceux qui vont aller regarder le baseball, c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus traditionnel et ce genre de choses. Donc voilà, il fallait que ça perdure et il fallait que ça continue. Donc du coup, tu as un homme, enfin en tout cas dans la série c'est comme ça, il y a un homme qui décide, bon bah ok, il n'y a plus d'hommes, bon, il y a des femmes là, bon bah voilà.
C'est lui,
et du coup concrètement,
Philippe K. Wingley.
Ouais, j'avais pas son nom, mais du coup il va faire, il va partir partout dans tous les États-Unis, même jusqu'au Canada, pour aller recruter, faire du recrutement auprès des femmes pour pouvoir monter une équipe.
C'est exactement ça. Donc du coup, vous allez avoir plein de femmes qui vont traverser les États-Unis pour faire leur championnat. Évidemment, les gradins seront pleins. Mais bizarrement, cette ligue va ne plus exister en 1954. Ça va totalement s'arrêter parce qu'Askip, je cite comme d'habitude, comment ça les femmes elles font du baseball ?
Oui.
Mais pourquoi ?
Mais les hommes sont revenus
de la guerre.
Il y a
des enfants, nous sommes revenus de la guerre, il y a des frigos à remplir, j'ai des chaussons à avoir le soir, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?
Et comment ça, les femmes travaillent ? Il n'y a plus besoin de vous dans les usines.
Car
effectivement,
merci
beaucoup, au revoir.
C'était une ligue professionnelle, elles étaient rémunérées, et tu as complètement raison là-dessus. Donc du coup, malheureusement, ça va s'arrêter. Mais la Ladies Professional Baseball reprend le relais en 1997, c'est pas si vieux que ça. Mais malheureusement, les affluences sont très médiocres et l'expérience cesse dès 1998. C'est un parcours pour que le baseball féminin existe, vraiment. Et finalement, c'est en 2000 que la principale organisation aux États-Unis, la Women's National Adult Baseball Association, bon gros, la Ligue des filles, quoi, va tout simplement prendre le relais et va, avec l'autorité de l'International Baseball Federation, donc la plus haute instance du baseball, va lancer le développement du baseball féminin. Et là, on va avoir un Hall of Fame qui existait depuis 1998, on va faire la Coupe du Monde de baseball féminin qui existe depuis 2004 et qui a lieu tous les deux ans, on va faire les championnats d'Europe qui, eux, sont plus récents. La France a gagné deux fois, il y en a eu trois championnats d'Europe et le dernier le Royaume-Uni qui l'a gagné, pardon.
Comme quoi on n'est pas si mauvaise.
Non, cocorico, on est plutôt bon.
Parlais des femmes en général.
Bon, est-ce que je peux vraiment juger? On va dire, une fois t'as plus de cheveux, t'as plus le droit de parler.
Voilà. Y en a plein qui devraient fermer leur bouche, du coup.
Donc le championnat d'Europe de baseball féminin, c'est 2019 le premier. Le premier a eu lieu à Rouen, la France a gagné. Le deuxième en 2022 à Montpellier, la France a gagné. Et en 2025, c'est à Lyon en République tchèque, c'est le Royaume-Uni qui gagne. Il y a la Coupe du monde féminine qui existe depuis 2004. Alors sachez qu'en 9 éditions, 2 ont été remportées par les États-Unis et 7 d'affilée par... Allez, un indice, c'est le portrait du jour.
Le Japon.
Voilà,
vous écoutez Allegre FM 93.1.
Il n'y a absolument rien à dire. D'ailleurs, elles ont battu en finale encore une fois les États-Unis. Et c'était il n'y a pas longtemps.
Ce qui est très étonnant, en 2024. En fait. Je ne les voyais pas du tout. Alors, ce n'est pas une critique du tout. C'est juste que je ne les voyais pas du tout perforer dans ce genre de sport.
Performer.
Parce qu'à perforer.
Ah bah perforer.
Ah
les scores, les trucs.
Ah pardon, c'est parce que c'était pour parler d'un autre sujet, du coup, tu vois, juste avant.
Mais de toute façon, on va reprendre juste après. Là, on va envoyer un petit morceau. Dédicace à Damien. Je vous laisse, maestro, s'il vous plaît, un peu de musique. You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe be in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must take it out till the end.
Together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever.
Rock and roll, Mrs. and Mr. You are in Champions, the emission of Allegro FM 93.1. Bienvenue, on est toujours dans l'émission qui traite de sport féminin. Vous êtes bien ici, je suis toujours cadre de l'homme du 92. On vient d'écouler le groupe, et vous allez comprendre
Écouler,
tout à fait. Voilà. On a écoulé le groupe, on a pris le groupe, on l'a mis sur un radiateur, comme Plastic Bertrand, ils ont fondu. Tu vois, c'est la même chose. Donc du coup, The Baseballs. Avec un S. Eh oui, c'est le titre de ce groupe que j'ai trouvé. Alors c'est bien une cover de Umbrella de Rihanna, et non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, car il faisait déjà de la musique dès 2010, et toc. Et aujourd'hui mon nom est Kotaku Naoru Gaku-san, ce qui veut dire Monsieur Front Brillant en japonais.
Monsieur quoi ?
Front Brillant.
Ah, front brillant. Bah
oui, parce que maintenant mon front il commence très loin.
Ah ouais, mais tu l'as dit très vite et j'ai pas compris en fait, le front, brillant.
Front. Alors, on va demander, là tout de suite, à la plus célèbre chasseuse de Ronin du domaine des eaux, la terreur des six de Yotei et la sauveuse du clan Matsumae, comment ça va Sandrine? Elle va bien, vous inquiétez pas, tout va bien.
Ceux qui ont la référence, ils doivent bien rigoler, mais oui, je l'ai fini.
Moi, tu peux dire ce que c'est.
C'est un jeu vidéo.
Voilà, Ghost of Yotei, bien sûr, la suite de Ghost of Tsushima. On va parler d'Ayami Sato. Mais juste avant, je voulais reprendre les questions habituelles. Parce
ouais,
que,
les super questions.
Mais oui, les meilleures questions du monde. Alors, et oui, il existe bien la Fédération Française de Baseball et Softball en France. Elle gère le baseball, le softball et le baseball 5. Alors, qu'est-ce que le softball? J'ai noté ça quelque part. En gros, c'est du baseball simplifié, encore une fois. Mais pour faire simple, c'est le baseball pour les enfants. Voilà.
Mais pas de la tech.
Non.
C'est encore un
à chaque fois que tu dis la tech, je pense vraiment tectonique de ouf.
C'est toi qui m'as dit que ça s'appelait comme ça.
Je sais, mais c'était vraiment long. Alors, combien de licenciés sur ce sport en France, ma chère Sandrine, au 31 décembre 2024? Vous pouvez jouer chez vous, bien sûr.
De licenciés, je ne crois pas que ce soit un sport excessivement connu, si, mais en France. Hein.
Oui, en France. Hein. Allez, à la louche, comme ça.
Je ne sais pas, je dirais
400-500 licenciés.
Ouais, je ne sais pas.
12 924 licenciés, bien sûr.
Ah, quand même.
Oui. 189 clubs sur le territoire et 22,6% de femmes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Dont le club de Tremblay en France, qui n'est pas très loin de la région parisienne, qui est un des clubs très actifs sur le sujet. On continue, évidemment, la licence. Après, d'après toi, une petite licence pour faire un peu de ce sport, une licence adaptée.
Je pense pas que la licence soit très chère. Je pense que c'est plus le matériel qui va coûter cher. Plus on va monter en puissance, plus ça va coûter cher. Mais la licence, je sais pas, peut-être entre 50 et 70 euros.
Eh ben non, encore moins cher, entre une dizaine et vingtaine d'euros.
Ouais.
Selon le lieu où tu vas faire et le niveau que tu veux prendre. Les adhésions annuelles sont à peu près, pour les clubs en elles-mêmes, une centaine d'euros, mais la licence, c'est vraiment pas cher. Évidemment, la BAT, elle va de 22 à 640 euros.
Oui.
Ça, c'est cher. Le casque, il va de 27 à 150 euros.
Ouais.
Le gant de baseball, c'est de 25 à 550 euros.
T'as les chaussures aussi.
Je ne suis pas allé jusqu'aux chaussures. Parce que
l'uniforme en lui-même avec les chaussures et tout, machin, enfin oui.
T'as une partie qui est fournie par le club, donc
oui, certes, voilà. Quand tu vas en compétition, mais pour aller t'entraîner, il faut bien que t'aies tes affaires à toi.
T'as des clubs quand même qui fournissent un peu de... J'ai regardé.
Avec, la,
tout,
licence avec la licence à 10 ou 20 euros, je ne suis pas sûre que ça fait pas les habits soient comptés dedans, en fait.
C'est pertinent, c'est pertinent. Les balles sont de 9 à 50 euros et évidemment, un soutif de 80 à 100 euros. Vous
mais ça,
connaissez.
Ça ne change pas.
Voilà, ça ne change jamais, d'ailleurs. On va donc parler de la légende du jour, une lanceuse, une pionnière, Ayami Sato. Qui est née le 21 décembre 1989 à Kagoshima, au Japon. Son poste, c'est lanceuse, elle est droitière, elle fait 1m66, c'est petit.
C'est petit, mais ouais. En même temps, elle est lanceuse, donc si ouais. Elle était receveuse, ça serait peut-être un petit peu plus...
Ce serait différent.
Bah, ou alors, il faut qu'elle saute très haut pour aller les récupérer, mais oui.
Mais au poste de lanceur, ça va. Bah, comme on a dit, ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as certains postes au baseball, tu n'as pas besoin de critères particuliers. Autant quand tu fais certains sports, il faut que tu sois grand ou
oui,
tu aies une certaine morphologie, une certaine musculature. Mais là, lanceur, tranquille, quoi. La taille n'est pas un
non,
souci.
Non, mais ça peut, quand tu es receveur, si tu es plus grand, ça aide.
Oui, voilà.
C'est pas primordial, mais ça aide.
Donc, du coup, elle commence le baseball à 9 ans dans sa région et... Tenez-vous bien, en 1998 du coup, il n'y a absolument pas d'équipe féminine dans son coin. Ah bah tiens donc, comme c'est étrange. Donc elle joue avec son frère et les garçons du coin. Très vite, elle s'impose parmi les garçons. D'ailleurs, sa balle est rapide et déjà redoutable. Donc elle fait son petit bonhomme de chemin, comme un peu toi au collège. Elle fait du baseball à côté de l'école, tout ça, avec les gens de son coin. Donc forcément, elle progresse puisqu'elle joue avec des plus grands qu'elle. Et au lycée, elle déclare elle-même ne pas avoir les qualités particulières. Elle joue bien au hockey, mais voilà, elle s'était jamais vue comme une professionnelle. Et tel un shonen, un dessin animé japonais. Imaginez, nous sommes dans un lycée, d'accord ? Et puis, il y a un coach, il est là, c'est un coach du lycée en sport, et il entend... Il tourne la tête et il la voit sur le terrain, et il voit son lancer, et il se dit, mais elle a un potentiel de ouf. Et il va la pousser. Il ne va pas la lâcher. Et du coup, à la fin de sa scolarité, elle a 20 ans, elle va quitter les études pour rentrer en 2000 dans la Ligue féminine japonaise qui vient d'être créée. Et elle va prendre sa première Coupe du Monde en 2010, un an après. Donc elle devient pro en 2009, elle a 20 ans, à 21 ans, elle gagne la Coupe du Monde. Elle a une des plus titrées et une des meilleures lanceuses du monde parce qu'elle va gagner, d'après toi, combien de Coupes du Monde ?
Là, tu l'as dit tout à l'heure, je crois 6 ou 7.
Elle en prend 5. Parce qu'elle n'était pas là en 2008 et la dernière en 2024, elle n'était pas là.
Ce qui veut dire que quand elle a été remarquée, elle avait déjà un sacré niveau et un sacré potentiel. Parce qu'il la remarque et un an après, elle a son titre. Donc certes, elle a progressé parce qu'elle a, elle a été prise en main par des entraîneurs et ce genre de choses. Mais c'est qu'elle avait déjà un sacré niveau.
Ah mais elle avait un potentiel de ouf. Le prof de sport, GG. Hein. Vraiment extraordinaire cet homme. Il a vraiment vu quelque chose en elle et ça a vraiment fonctionné. Il n'y a rien à dire. Donc elle va gagner ses 5 Coupes du Monde. Elle est une des pionnières de ce sport au Japon puisque la ligue vient d'être créée, la Japan Women's Baseball League. Elle devient la première femme à signer dans une ligue professionnelle masculine, car on l'a dit c'est un sport mixte. Donc elle signe cette année, c'était au mois de mai, avec les Toronto Maple Leafs. Son premier match qu'elle fera avec les professionnels garçons, c'est tout simplement... comme je vous dis, c'est au tour par tour. Sur les deux premiers tours où elle lance, il n'y a absolument aucun batteur qui va aller sur une base. Voilà. C'est simple. Elle les a strikés. Premier match.
Ouais.
Elle a le droit à une standing ovation publique debout. Elle est vraiment très forte. Elle a tout déchiré sur ses premiers matchs. Il faut dire que c'est aussi une volonté du Canada de l'avoir prise à 35 ans, puisque l'année prochaine, ils font la Ligue féminine canadienne, donc ils avaient besoin d'une figure de proue et de montrer que ce sport est accessible aux femmes sans aucun problème pour qu'il y ait des licenciés, des jeunes filles qui aient envie de jouer. Donc elle est vraiment hyper forte. Elle a déclaré que le baseball est un sport que tout le monde peut pratiquer, quel que soit l'âge ou le genre. Je veux encourager chacun à jouer et à en profiter. Ça, c'est le jour où elle signe à Toronto.
Mais c'est surtout que ça montre un bel exemple de voir une femme dans une équipe d'hommes.
Ouais.
Donc ça montre bien qu'à la base c'est un sport mixte et surtout elle a un poste emblématique. Je dis pas que les autres ils sont pas importants, mais la lanceuse, si jamais, comme tu dis, il y a personne qui a touché, donc c'est hyper important parce que ça veut dire que si personne peut renvoyer la balle, il y a personne qui tourne autour du terrain, donc il y a pas de points qui sont marqués.
Exactement.
Donc c'est quand même un des postes, en tout cas ils sont tous en plus ou moins importants, mais celui-ci il est quand même hyper stratégique et c'est une femme face à qu'à des hommes, quoi.
Ouais, face à des professionnels. Elle s'en est même très bien sortie. D'ailleurs, sa balle rapide a été mesurée. D'après toi, combien de kilomètres-heure ?
Oh, tu m'énerves avec tes questions.
Hein, bah attends, nous sommes une émission éducative.
Bah,
nous faisons des quiz.
Okay, mais on n'a jamais les bonnes réponses. Donc en fait, j'en sais rien, moi, combien l'élan. Est-ce que ça peut être aussi fort que les joueuses de tennis?
Ouais, mais sans raquette.
Ah ouais. Il me semble qu'il y a certaines joueuses de tennis, ça les envoie entre. Pas long, entre 100 et 150 km/h.
Bravo, 129 km/h à la main. Voilà, alors je mets au défi.
À la main.
À la main. Je mets au défi n'importe quel, comme moi, sportif de canapé, coach de canapé, prenez une batte, prenez un 129 km/h par Ayami Sato et on en reparle dans.
Non, c'est pas ça, c'est
plus
que.
Plus tard, les gars.
Tu sais, imagine, tu veux jouer à la balle au prisonnier avec elle.
C'est mort, elle doit fracasser les gens, là. Elle doit être d'une précision en plus chirurgicale.
Parce que la balle, elle est pas lourde, mais elle est pas légère non plus, quoi.
Non, clairement. Donc c'est une tueuse. Elle a un des. C'est très rare d'ailleurs dans le baseball féminin et même en professionnel. Elle lance la balle même plus fort que certains pros. Donc elle s'est entraînée longtemps avec des équipes masculines. Elle est devenue l'ambassadrice du baseball féminin. Elle est connue dans son sport parce que moi, avant cette émission, je la connaissais pas malheureusement.
Moi
mais
non
pour
plus.
Le coup, maintenant, je m'intéresserai un peu plus. Une de ces citations que j'ai bien aimée, c'est un rêve qui devient réalité. L'excitation que je ressens aujourd'hui est la même que le jour où j'ai commencé à jouer à 9 ans. C'est quand elle signe à Toronto en fait pour le premier match. Donc elle a été hyper médiatisée et en fait elle a pris à bras le corps cette médiatisation parce qu'elle savait derrière qu'il y avait la Ligue féminine qui ouvre l'année prochaine, que ça allait faire de l'engouement énorme autour de son sport et qu'une femme de 35 ans qui est la première femme à jouer dans une ligue professionnelle masculine au Canada. Voilà.
Je pense que ça doit la motiver pour les futures générations, pour faire venir des jeunes filles justement à faire perdurer et à jouer dans ce sport-là et que pour le coup ça soit plus connu parce qu'il y a des compétitions, tu l'as dit, mais encore une fois, je ne sais pas où c'est que tu peux regarder ce genre de compétition si vraiment tu t'intéresses à ce sport. Il n'y a pas vraiment façon de pouvoir,
ouais.
de pouvoir les voir en fait.
Il y a très peu de diffuseurs. Généralement, il faut que tu ailles chercher sur des HBO ou des chaînes de sport comme ESPN. Et là, tu as un peu de choses qui sont mises, mais en France, c'est très peu, voire pas du tout diffusé, quoi. C'est vraiment une tannée. Il faut vraiment que tu ailles chercher des abonnements sur des sites américains. Alors, on parlait justement de son lancer. Alors, elle possède une courbe, une curveball, un curvy, ok. Donc, c'est une courbe, une balle courbe, dont le spin, c'est-à-dire la rotation. T'as vu, je fais les traductions. Parce que sachez-le, Sandrine est très à cheval sur les anglicismes. Eh bien, en fait, dans sa balle courbe, donc la rotation est beaucoup plus élevée que beaucoup de joueurs de carrément la Major League Baseball, c'est-à-dire la ligue la plus haute, la ligue américaine. Donc, elle est vraiment extrêmement forte. Ensuite.
Comme quoi, c'est pas une question de genre.
Non, clairement pas. Elle a été élue MVP, meilleure joueuse, de la Coupe du Monde féminine 2014, 2016, 2018 qu'elle a remportée. Voilà, je pose ça là. Bon, rapidos. Autrement, elle a été plusieurs fois joueuse de l'année dans la Ligue japonaise de baseball. Il y a un documentaire dans lequel elle apparaît. Elle a été mise en lumière dans le documentaire See Her, Be Her. Regardez-la, c'est ça, non? Traduction, s'il vous plaît. See Her, Be Her, soyez elle, peut-être. Aide-moi.
Bah, regardez-la et soyez, enfin, grosso modo, regardez-la et prenez-la comme exemple pour être comme elle.
Voilà, parfait. Alors, dans lequel, évidemment, ce documentaire est toujours sur Amazon Prime, qui raconte l'histoire de plusieurs joueuses de baseball à travers le monde. Donc, pouvez-vous
c'est
un peu renseigner
ouais. Celle-là actuellement, là.
Oui, il y est. J'ai regardé.
Et donc, elle est dedans.
Elle a une partie, ouais. Une partie dedans.
Ok.
Parce que c'est la joueuse la plus célèbre. Pardon, la joueuse la plus célèbre.
Je t'ai dit que j'allais être reprendre.
Oh non, mais tu peux, reprends-moi. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur d'être repris. D'ailleurs, voilà, qui est mon classique.
Ah, mais là, pardon, j'ai pas de traduction.
Bah oui, je sais. Donc voilà. Donc, Ayami Sato, ça reste vraiment un symbole de persévérance, d'égalité, une preuve vivante que le talent n'a pas de genre, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas seulement une lanceuse exceptionnelle, c'est un symbole. Elle est hyper cool. Et malheureusement, son équipe n'est pas partie en finale de play-off, puisqu'ils se sont fait éliminer par l'équipe de Ontario, qui sont les Barrie Bay Cats. Donc, en gros, les chats de la baie de Barrie à Toronto.
franchement, dit comme ça, ça vend moins de rêve.
Ça va c'est... Non, ça vend moins de rêve, t'es sûr? Ah purée, moi j'étais sûr de moi, là. Je me suis dit, c'est trop bien comme le nom d'équipe. Bien, sur ce, évidemment, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette joueuse?
Non, parce que je la connaissais pas plus que ça et sincèrement, d'avoir regardé ne serait-ce que sur Wikipédia, sa page elle est vraiment très courte.
Oui.
Comme quoi, je pense que bah c'est volontaire ou non. Enfin, je sais pas si ça va avec sa culture, parce que dans sa culture, on se fait pas trop montrer. On est humble, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments la concernant, alors que pour le coup, elle a un parcours et qu'elle a un vécu assez, assez impressionnant. Donc, très contente d'avoir pu, d'avoir pu en parler, parce que vraiment, c'est une icône pour ce sport-là, en fait.
Et pour le Japon, encore une fois.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout les jeunes filles qui sont vraiment intéressées par ce genre de sport. Je pense que ça fait vraiment partie. Il n'y a pas que elle, évidemment, et tant mieux. Mm. Mais ça fait quand même partie, je pense, des icônes et des personnes qu'elles vont suivre. Et que si elle est à la tête de la prochaine, malgré qu'elle ait 35 ans et qu'on la prend et qu'on la met à la tête de l'équipe, c'est que justement, derrière, elle a quand même suffisamment de personnes qui la suivent pour pouvoir encenser ce sport, en fait.
Pour en faire la promotion. Après, comme on a dit, le baseball reste un sport très masculin, dont la promotion et la visibilité restent masculines pour le moment. Mais c'est pas grave, les choses changent, il faut s'accrocher. Après tout,
ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps quand tu vois quand est-ce qu'il a été créé quand même.
Mais ça arrive, ça arrive.
Ça fait quasiment...
Plus de 100 ans.
Bah, presque 200 même.
Ouais, ou bientôt.
Ouais, ouais, donc c'est...
150 ans à peu près.
C'est énorme, alors qu'encore une fois, pourquoi cette différence, sachant qu'à la base c'est un sport mixte.
Ouais.
Donc il n'y avait pas eu besoin de faire deux ligues différentes ou de... C'est dommage.
Écoute, de toute façon, elle est là, ça existe. La Ligue au Canada arrive, la Ligue française existe. Donc il y a des choses à faire, n'hésitez pas. On va mettre un petit morceau de musique. Eh ben, je te le dédicace. Voilà, musique maestro, s'il vous plaît.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Dance. Et oui, nous sommes de retour. Bienvenue, bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours sur LYFM 93.1. J'ai toujours Cad, l'homme du 92. Nous sommes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter Breakbot et De La Fleur avec le morceau Be Mind, dédicacé à Sandrine, qui m'a dit, je cite, c'est moi qui ai choisi. Donc, vas-y, je t'en prie.
Oui, c'est moi qui ai choisi ce titre. Donc bon, c'est gentil de me le dédicacer, mais...
Bah oui, tu l'as choisi. Bah, bon, d'accord. Donc je me fais mettre à l'amende en direct. Alors, jamais de sobriquet pour la troisième partie. J'espère que ça va toujours, Sandrine.
Oui, toujours.
Et dédicace à la régie, bien sûr. Diego Armando Maradona, il est présent, il est là, il est dans les locaux. Et maintenant, on va parler de manière libre du fameux sujet. La France est-elle un pays de sport ou de sportif ?
Vous mais avez avant... 3 heures, tic.
Coefficient 7. juste avant, hors antenne, on a quand même souligné un sujet qui était très important. Ayami Sato, la légende du jour, qui est vraiment une grande dame, lance des balles à 129 km/h. Donc lorsqu'elle lance la claquette, la schlaquette, entre les deux yeux de ses enfants...
Tout le monde rase le sol, il s'allonge, il passe dans des, entre le frigidaire et le mur. Ah ouais, il faut se cacher.
Franchement,
ta daronne,
elle peut lancer des trucs à 129 km/h avec une pression de ouf. Eh, tu rigoles pas avec elle?
T'imagines, tu prends dans l'œil.
Elle doit leur lancer des objets, même son mari. Ah, ça doit danser la polka. Alors, on va parler effectivement, est-ce que la France est un pays de sport ou de sportif? Alors déjà, bah, je te pose la question d'après toi, comme ça, d'après tes expériences sportives en tant que téléspectatrice ou actrice ou même dans ton entourage, est-ce que d'après toi, la France est un pays de sport?
Non, je pense pas. En fait, c'est assez particulier parce que on voit au JO cette année et plus les autres années qu'il y a énormément de sportifs. Hommes, femmes, même sur la partie handicap, enfin en handisport, tout ça, il y a vraiment beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup d'athlètes, mais comparé à ça, je vois pas énormément de diversité. Enfin, il y a des clubs, mais ça reste des clubs que je trouve. Enfin, il y a du foot, il y a du baseball, c'est de mon coin. Il y a du basket, enfin ça reste le sport.
Il y a du handball.
Oui, voilà, c'est ça. Ça reste certains sports, le judo aussi, qui est pas mal mis en avant.
L'escrime.
Tout ça. Moi, par chez moi, il n'y a pas beaucoup d'escrime. mais en fait, voilà, c'est certains sports. Alors que j'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir autant d'athlètes aux Jeux Olympiques qui arrivent à un certain niveau.
De haut niveau.
Que ce soit, même sur la partie handisport aussi, il y a aussi du haut niveau, du très haut niveau. Alors que, sincèrement, il n'y a rien dans ton parcours scolaire ou même au-delà qui t'incite à faire un sport.
C'est exactement ça. Donc pour l'info, pour les Jeux Olympiques classiques, pas paralympiques, il y avait 122 athlètes français dans 32 sports et 45 disciplines. La France a remporté 64 médailles, c'est son record, dont 16 en or, 26 en argent, 16 de bronze. Et là où je te rejoins, et c'est exactement ça, on a un pays de sportifs, on a des athlètes extraordinaires, vraiment pour le coup dans tous les sports, il n'y a rien à dire. Mais... dans la vie quotidienne des Français, le sport n'a pas vraiment d'impact. À part te dire, il faut manger 3 légumes par jour, il ne faut c'est pas obligé d'aller courir. 5, d'accord, je suis mauvais en maths.
Je crois que c'est 5.
Je ne sais plus, manger des fruits.
Il faut manger des fruits et des légumes.
À part ça, dans le parcours en fait, classique, on n'a pas d'incitation, de putsch, à part effectivement, comme tu dis, l'école, le collège, le lycée. Et si tu ne choisis pas une filière STAPS, qui est la filière sportive à l'université, c'est fini.
Mais c'est surtout que
il y a plus de rapport au sport en fait.
Non, pas vraiment. Puis tu regardes si jamais. Alors attention, peut-être je vais avoir des différences parce que pour le coup, moi j'étais en campagne, donc il y a peut-être certaines subtilités ou certaines différences. Mais même si tu es allé au centre aéré ou ce genre de choses, même là, ils t'incitent pas à te montrer des sports. Enfin moi, c'était beaucoup d'art plastique ou ce genre de choses, mais c'était pas un sport où si tu jouais à la balle aux prisonniers ou tu jouais à des jeux, mais c'est pas en soi un sport à proprement parler. Et pourtant, quand tu fais tes recherches par rapport à ton émission, sur un sport peu importe lequel, là il s'avère qu'encore on parle de baseball et il y a des clubs de baseball qui existent en France, il y en a quand même un certain
189,
nombre.
189, c'est
beaucoup. C'est pas, enfin, sur toute la France, ça en fait quand même pas mal. Il y a des Françaises, ils ont remporté des titres, donc en fait on est présent sur énormément de choses, mais en fait on le sait pas et c'est pas. Et c'est pas mis en avant, je pense que c'est vraiment pour le coup par le biais de l'éducation des parents qui incitent à aller essayer, enfin moi c'est ce que mes parents ont fait, ils m'ont fait essayer plein de sports pour que du coup à un moment donné t'aies le déclic sur un et que ça plaît, mais ça reste dans un éventail de sports qui sont très représentés aux Jeux Olympiques, par exemple, mais sur des sports tels que celui qu'on parle ce soir, qui est plus ciblé, bah, en fait, sincèrement, si t'as pas regardé un truc à la télé sur un championnat masculin, j'entends, tu vas pas t'intéresser à ce sport,
non,
tu vas pas, parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas représenté.
T'as souligné, ça vient de la famille. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas comme dans d'autres pays, je pense aux États-Unis en particulier, qui ont des programmes de sport très très poussés pour pousser justement les universitaires à aller en bourse, à devenir des grands professionnels de sport majeur comme le basket, le baseball ou le foot américain entre autres, ou l'athlétisme.
Qui n'est pas spécialement une bonne solution non plus, parce que du coup, voilà.
Mais tu as vraiment quelque chose autour de ça. Tu as les clubs locaux qui font vraiment beaucoup de lobbying pour leur sport généralement. Dès le collège, on le voit dans les séries américaines, tu as toujours l'équipe du collège, l'équipe du lycée. Etc.
Parce que là-bas, ça coûte tellement cher que du coup, avoir une bourse par le biais de ton
tout
sport,
à fait.
C'est une façon
mais
de t'en sortir.
Déjà, nous, on n'a pas ça. Tu vois,
non, clairement. J'ai
pas le championnat des collèges de volleyball, par exemple, alors qu'on pourrait le faire.
Vous n'avez pas des championnats de collège ? Nous, on a des
championnats. Il y a des championnats départementaux, mais très franchement, tous les collèges n'y participent pas forcément, en fait.
Nous, on a des championnats de collège ?
Oui, mais ça, parce que toi, t'es en province et vous chassez les champignons avec, avec des barres de fer.
Déjà, les champignons, ça ne se chasse pas. Ça se récolte, s'il te plaît, et ça peut être très dangereux. Attention.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est par le biais de la famille. C'est-à-dire que vous avez toujours un parent ou les parents ou un oncle qui va vous inscrire, vous, en tant qu'enfant, et vous allez vous intéresser au sport, soit grâce aux copains, parce que leurs parents ont effectué un sport. Et comme tu as dit, c'est les parents qui vont faire essayer un panel de sport qui leur parle. Soit parce que dans la région, par exemple, si on va à Biarritz, on pourra faire du surf, par exemple. Mais généralement, on a le foot, qui est le sport le moins cher à pratiquer, que tu pratiques déjà en tant que petit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une volonté gouvernementale et d'État de mettre le sport au centre du quotidien des Français.
Bien sûr, mais de toute façon, ça reste, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, ça reste sur un panel restreint de certains sports.
Je suis d'accord.
C'est les sports que tu entends le plus parler, que tu vois le plus à la télé, que les gens ils pratiquent le plus. Donc en fait, ça donne un choix, d'accord, mais ça reste un choix qui est restreint. Il y a tellement de sports, il y a tellement de disciplines que du coup, t'as pas une façon de pouvoir rechercher, de pouvoir t'interroger. On en avait parlé à Rotten, mais sur le programme que vous avez ici en région parisienne sur les sports.
Oui.
Et que tu fasses un an ou que tu fasses les 4 ans au collège, tu vas faire les mêmes sports. En fait, si vous avez tous fait la même chose. Et du coup, ça te donne pas envie, parce qu'en plus, tu le refais pendant 4 ans.
Oui.
Donc concrètement, ça donne pas spécialement envie, alors que... Attention, je dis pas que c'est mieux, hein, mais nous, on avait la possibilité d'avoir d'autres sports. Et parfois, il arrivait que pendant un trimestre, le prof de sport nous disait « Ok, vous voulez essayer quoi ?» Parce qu'on avait l'espace pour pouvoir faire... Attention, il ne fallait pas dire n'importe quoi.
Bien
genre
sûr.
Beach volley, c'est pas possible, tu vois. Mais concrètement, voilà, on avait cette possibilité-là. Et j'ai l'impression que vous, à Paris... Alors, je ne sais pas, moi, c'est d'autres personnes qui m'en avaient parlé, que les profs de sport, ils sont un peu...
Ils sont blasés.
Ils sont blasés. Ils suivent un peu le programme, mais ils n'ont pas de latitude, en fait.
Quand tu es à l'école primaire, tu as à peu près 3 heures hebdomadaires de cours de PS. Donc moi j'ai eu la chance de faire du handball et d'aller en départemental, mais c'était mon école primaire qui avait insisté pour qu'on fasse cette discipline là.
C'est bien.
On a fait du volley par exemple aussi. On fait quelques petits trucs comme montée de corde, trucs basiques. Quand t'arrives au collège, là tu commences à avoir 3 heures par semaine. Au collège tu as forcément course d'endurance autour de la piste que tout le monde connaît, tout le monde voulait sécher, classique. Le volleyball,
on courait dans les champs. Oui. Mais enfin, on avait pas
au milieu des sangliers, bien sûr. Elle courait au milieu des licornes.
C'est quand même mieux, non?
Avec des gens en vert qui sentaient la vinasse et qui tiraient des coups de fusil au hasard pour que les enfants courent plus vite.
Non,
bref,
parce que
la
les
vie
chasseurs,
des provinciaux.
Ils n'approchent pas autour des écoles quand même, c'est très dangereux.
Ah, c'est jamais.
Mais je trouve ça quand même plus fun de courir dans un champ que de courir sur du bitume, quoi.
Je suis d'accord. Du coup, on avait le volley, on avait le ping-pong aussi qui revenait souvent.
Non, on n'avait pas ça.
Et le hand aussi. Mais en fait, on avait effectivement la même chose. Et après, au lycée, c'est là où ça devient assez ironique. Au lycée, tu n'as que 2 heures par semaine, alors que ça va compter dans ton date note au bac. Et donc, du coup, c'est au moment où tu as le moins d'heures. Que c'est là où peut-être, dans ton développement, ça peut être le plus sympa.
Ouais,
tu vois.
Mais pardon, mais excuse-moi, le prof des sports, il arrive en conseil de classe, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée, il dit « Bon !» Élève un tel, j'en ai marre, il a que des zéros parce que du coup il est nul. Les autres ils vont le regarder, ils vont dire mais on s'en fout de ton avis en fait. Tu vois, il est pas...
Il n'est pas crédible, oui, je sais,
France. Non, alors il est peut-être très bon dans son métier, mais malheureusement, les autres professeurs ne vont pas comptabiliser sa note, en fait. Et pourtant, comme tu dis, elle compte, ce que je trouve assez...
Et justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc il n'y a pas une volonté de gouvernement et de mettre le sport au cœur de nos vies, puisque tu n'as que 2 heures au lycée et que le prof, généralement, il est toujours mis à part, ça c'est clair, alors que derrière... Tu as quand même des filières, tu vois, le STAPS, qui peut te ramener à l'INSEP. Alors l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, c'est vraiment par là où quand vous êtes vraiment très très fort, vous voulez au haut niveau, c'est ça que vous devez viser comme institution.
Oui, sauf que je suppose qu'il n'y a pas énormément d'écoles et donc il n'y a pas beaucoup de places.
Eh bien j'y viens, justement. Il n'y a pas assez de dispositifs. Il existe seulement 274 dispositifs de sport-études en France. Ce qui est déjà pour les élus, tu vois. Donc, on n'a vraiment pas le sport dans nos prérogatives, alors qu'on est un des pays où on a les meilleurs sportifs. Hein.
Parce que tu vas me dire que tous ceux qui... Bon, la majeure partie de ceux qui se présentent aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, qui sont passés par ces filiales, c'est une obligation ?
Eh bien, j'ai une réponse à ça. Concernant des étudiants sportifs de haut niveau, au JO 2024, 30% des 600 athlètes venaient, effectivement, des filières étudiantes.
Mais 30%, c'est peu.
Oui.
C'est là que tu vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, en fait.
Non, on n'a pas un système qui est fait pour pousser le sport le plus possible, en fait. Et c'est ça, en fait, notre problème. C'est pour ça que souvent, on nous dit, et je citerai Kev Adams, qui a dit sur le plateau, juste avant les Jeux Olympiques, il s'est fait reprendre par Manodou en disant « Oui, on a un pays de sport ». Et Manodou lui dit « Non, on a un pays de sportif, puisque les infrastructures, il est vrai, ne suivent pas. On ne met pas du sport dans la vie des élèves quand ils sont petits. Et nous, même par exemple, en culture d'entreprise, lorsque vous avez un boulot, vous n'avez pas une engeance ou une couleur ou une sensibilité particulière des employés à vous dire « Oh, il y a une salle de sport, un abonnement, vous allez faire du sport, etc. » On n'utilise pas le sport.
Ça, il faut que ce soit dans des très grosses entreprises qui ont une salle de sport dans leurs locaux. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
Et dernier truc que je voulais dire sur le côté gouvernemental par rapport au sport, c'est qu'à chaque fois qu'il y a les JO, c'est le cas des JO 2024, il y a toujours une augmentation des licenciés.
Oui.
Parce que les sports ont été médiatisés, donc il y a plus de gens qui veulent faire de l'escrime, du judo, la Coupe du Monde de foot, il y a plus de licenciés de foot, donc il y a vraiment un effet comme ça. Et pourtant, sachez-le, le budget alloué au sport a pris une claque, comme
ça. Oui, il a baissé après les JO.
Ils ont enlevé 300 millions d'euros, comme ça, au budget. Alors, on a fait les JO, on a les 64 médailles, on est un pays qui a la chance d'avoir des grands sportifs malgré les infrastructures qui manquent, et comme on l'a dit, le manque de coordination et d'encadrement pour les jeunes sportifs, et on s'est dit qu'on allait sucrer des subventions. Voilà.
Mais tu l'as dit, en fait, le truc, c'est qu'après les JO, il y a eu énormément de personnes qui se sont licenciées, peu importe le sport qu'ils ont aimé, parce que, tout simplement, encore une fois, ils l'ont vu.
Bah oui.
Ils
les frères Lebrun, le ping-pong.
Oui, non, mais enfin, tu vois, ils ont vu ce que c'était, ils ont vu les compétitions, ils ont vu un sport qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à la télé. Et donc, c'est là que ça crée des déclics chez certaines personnes. Ça. Et top, mais le problème, c'est que c'est ça une fois tous les 4 ans. Donc, le problème, c'est que. Et encore, là, on a de la chance parce que c'était du H24.
Exactement.
Donc, tu avais la télé et tu pouvais voir tous les sports que tu voulais. Sauf que quand ça se passe à l'étranger, tu n'as pas autant de contenu. Mais il faut juste qu'il y ait plus. Qu'on puisse plus voir ce genre de choses pour que du coup il y ait des gens qui, enfin en tout cas des enfants, peu importe le genre ou quoi que ce soit, qui puissent avoir accès à, en tout cas qu'ils y pensent.
C'est ça. En fait, il faudrait qu'il y ait tout un tout de suite, ils aiment bien le dire là, il faut des réformes. Il faudrait une réforme autour du sport pour encadrer cela et le faire mieux et que ce soit autant, et j'insiste, pour les jeunes qui sont nos futurs sportifs en devenir, nos futures médailles d'or, nos futurs champions et championnes du monde, mais surtout parce que faire du sport, vous vivez plus longtemps. Donc pour les seniors, c'est aussi important, pour les gens dans leur vie, et ça déstresse. Donc en fait, le sport est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour votre santé mentale. C'est bien d'aller faire du sport.
Aussi, oui.
Et pourtant, ce n'est pas des choses qu'en France, on a l'habitude de mettre en avant. Alors qu'en fait, on a, comme tu as dit, même des petits clubs. On a des clubs pour faire du tir, on a des clubs pour faire du tir à l'arc, on a des clubs pour faire du volleyball, on a plein de trucs. Alors certes, on a de moins en moins de moyens, et ça, c'est pas fou, mais ça a le mérite déjà d'exister. Et à aucun moment, la culture française met le sport en avant, si ce n'est, comme tu as dit, tous les 4 ans. Et ça, c'est dommage. Combien de jeunes ont vu un lion marchand et veulent aller à la piscine, tu vois ?
Oui, non, mais clairement. Mais alors attention, hein, j'aime pas dire à chaque fois de voir comment ça se passe dans d'autres pays, machin, mais concrètement, en Allemagne, les enfants, ils ont école le matin, l'après-midi, c'est que du sport.
Voilà.
C'est, enfin, alors, ça ne veut pas dire que ça fait potentiellement plus d'athlètes ou ce genre de choses. C'est juste que ça leur donne une culture différente. Mmh. Les Londoniens, ils ont l'habitude de rentrer en vélo ou rentrer à pied. Ou,
courir, ouais.
Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont une autre façon de voir les choses. Nous, tu vas faire du sport jusqu'à un certain âge ou non, que ce soit en compétition ou non. Puis à un moment donné, bah, tu vas faire les trucs habituels, comme la plupart des gens qui vont aller courir. Et pourtant, ils n'aiment pas courir. Ouais. Et ils pourraient faire d'autres sports, mais ça prend du temps, c'est pas du tout dans notre culture et dans notre fonctionnement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça sur Paris. À la campagne, c'est différent, puisque déjà, on a...
Bah déjà, vous avez les chasseurs.
Oh, c'est trop cool avec les chasseurs. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a peut-être plus d'opportunités où ça nécessite moins de moyens. C'est-à-dire que potentiellement...
L'organisation est différente.
Moi, j'avais la forêt qui était juste au-dessus de chez moi. Je peux aller marcher dans la forêt, je peux aller faire une randonnée, je peux prendre mon vélo, je peux aller prendre une moto, je peux... Enfin, bref. Et du coup, je n'ai pas besoin de dépenser des 1 200 à partir du moment où j'ai l'accessoire qui me permet de pouvoir le faire. À Paris, je pense que... Enfin, c'est pas la même chose. Il faut que tu aies des structures. Si tu as envie d'aller courir, potentiellement, il faut que ça tourne dans un endroit qui est éclairé. Qui est, enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, je sais pas. Et je trouve que c'est moins accessible, en tout cas, en région parisienne.
Oui, après,
après, je me trompe peut-être, mais c'est ma façon
non,
de voir.
Non, c'est l'ironie. Nous, on a plus de clubs, plus de structures, mais elles sont moins mises en avant. On a moins de communication. Et comme tu as dit, on est pris par des trucs du quotidien qui font qu'on ne pense pas à ça. Comme tu as dit, c'est quand tu es jeune adulte, tu penses à faire le sport de prédilection que tu aimes bien. Et à un certain âge, bah, tu travailles, tu as une famille, t'arrêtes. Et en fait, en France, on a vraiment ce bloc de « Ah, maintenant, je suis un daron et je fais du sport, il te fait le dimanche. » Voilà. Alors, j'adore faire cette voix. Et du coup, c'est dommage. Mais
non,
bon.
Parce que tu vois, là, les clubs de fitness, là, il y a un nombre incalculable de personnes
voilà,
qui s'inscrivent.
Maintenant, c'est la nouvelle mode.
Alors que, attention, hein, ça reste du sport, mais ça reste du sport dans une salle, quoi.
C'est ça, alors que je préfère le plein air, voilà. Alors, je remercie évidemment Aligre FM pour nous laisser dégoupiller autant de sujets dans les jambes des gens comme ça. C'est une dédicace au président, t'inquiète pas, fonce pas les sourcils.
Ok, j'ai pas compris.
Il nous écoute en plus, il sait.
Ah, évidemment.
Le compte @championne _ l'émission sur Instagram. La Fédération française de baseball, c'est @FFBS. La Coupe du monde féminine, c'est @WBSC, si vous retrouvez ça. Pour @Sato _18, c'est le compte d'Ayami Sato. Sur la page Facebook Quiz de foot, vous retrouvez un ami qui vous veut du bien, mon cher Damien. Et là, on va se quitter.
Coucou Damien.
Je te laisse le mot de la fin.
Bah coucou Damien,
voilà.
Déjà parce que je lui dis jamais coucou, et c'était cool.
C'était très cool, on reparlera de façon du sport en France. Que la force soit avec vous, vive la France, vive la République, vive le sport, des bisous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.